Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, la chaîne YouTube qui vient de franchir le cap des 2 millions d'abonnés. Merci à toutes et à tous de votre confiance et continuez à nous suivre via nos environnements numériques. Dans 30 minutes, nous parlerons ensemble du Mali, après la décision des militaires au pouvoir de dissoudre l'ensemble des 300 partis politiques officiellement enregistrés. Depuis mardi, depuis le décret signé par le général Assimi Goïta, la classe politique est donc réduite au silence. Que vous inspire ce tournant dans la transition malienne? Quelle image vous renvoie la gestion du pays par le chef de la junte, le général Goïta, qui est au pouvoir depuis 2020 et qui sera prochainement nommé président de la République pour un mandat de 5 ans sans passer par des élections? Vos réactions évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sont déjà très nombreux sur nos réseaux sociaux. Là aussi, vous êtes nombreux à nous écrire du Mali. Je lirai quelques-unes de vos réactions, bien évidemment, pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, on va parler football pour commencer. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à tous les amis journalistes supporters du Real Madrid au niveau de Manara Radio-Télévision.
Bon, vous êtes vous-même supporter du Real Madrid. On va parler du Real et de Carlo Ancelotti. On vous écoute.
Exactement, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été nommé sélectionneur du Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Pourquoi la fédération a-t-elle fait ce choix alors qu'il a fait une saison plutôt moyenne au Real?
Oui. Alors, c'est une bonne question que vous posez. Saison moyenne, saison blanche pour l'instant pour le Real Madrid. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour David.
4 ans au Real Madrid et puis s'en va. Carlo Ancelotti ne prendra pas de vacances hein, puisqu'il dirigera son premier match avec la Seleção dès le 5 juin.
Face à l'Équateur, oui. Exactement, ça va venir très très vite, alors qu'il sort d'une saison délicate, alors pas tout à fait blanche, hein, parce qu'il y a eu cette Super Coupe d'Europe en août contre l'Atalanta Bergame, mais c'est vraiment de la roupie de Sansonnet pour le Real, la Super Coupe. C'est pas si fréquent que ça, que Ancelotti gagne rien pendant une saison ou pas grand chose. Alors attention, est-ce que tout est vraiment de sa faute? C'est pas sûr, parce que le Real a quand même connu à l'intersaison un sacré Big Bang avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Du coup, il avait, Ancelotti, un Real qui était plutôt déséquilibré, avec des joueurs très portés vers l'attaque, Mbappé, Vinicius, Bellingham, une défense qui était moins sereine. On peut l'incriminer, Ancelotti, il n'a pas su trouver les solutions tactiques, parfois un peu trop insisté sur certaines options, mais il n'a pas non plus été aidé. Il y a eu beaucoup de blessés, Alaba, Militao, Carvajal, Rudiger, Camavinga. Donc l'idée d'une fin de cycle, oui, effectivement, mais Ancelotti, il n'est pas non plus carbonisé oui. Ou complètement en perte de vitesse.
Oui, d'ailleurs, c'est en tout cas ce qu'a estimé la fédération brésilienne qui lui assigne un objectif, un seul, mission Coupe du Monde, point barre, et la suite on verra après.
Oui, parce que le Brésil veut retrouver les sommets, il y a une forme d'urgence aussi, c'est pour ça qu'il a fallu faire appel à Ancelotti. Le Brésil a plus gagné de Coupe du Monde depuis 2002, c'est une éternité, donc il va avoir pour mission de constituer un groupe pour la Coupe du Monde, réussir la compétition.
Les résultats pour l'instant sont plutôt décevants.
Ben non, 14 matchs, seulement 21 points pris, presque autant de victoires, 6 que de défaites, 5. Les Brésiliens ont 6 longueurs d'avance sur le Venezuela, pour l'instant qualifié pour les barrages incontinentaux. Donc, pas d'alarmisme, d'autant que cette zone sud-américaine, c'est un peu l'école des fans. Hein. Quasiment tout le monde est qualifié pour peu qu'on fasse le boulot. Mais il faut reprendre les choses en main. Et pour ça, Ancelotti paraît tout désigné parce qu'il a de l'expérience. Il a le palmarès. Il a quand même gagné 30 titres, donc 5 Ligues des Champions. Il a toujours su s'adapter à ses effectifs. Il connaît beaucoup de Brésiliens, notamment Vinicius, Rodrigo, qu'il a au Real. Il en a croisé d'autres au cours de sa carrière. Et puis, c'est un des meilleurs tacticiens du monde.
Il a l'expérience.
Oui, puis c'est quelqu'un qui sait instaurer un rapport de confiance avec les joueurs aussi. Et ça, c'est très, très important dans le cadre d'une sélection. Alors, pourquoi un contrat court? Parce que ça reste un pari, mine de rien. Il n'a jamais été sélectionneur. Le métier n'est pas le même que celui d'entraîneur. Puis ensuite, au Brésil, la tradition, c'est un Brésilien sur le banc. Et là, c'est une rupture claire avec le passé. D'ailleurs, le président de la République lui-même, Lula, a fait savoir qu'il estimait qu'il y avait des entraîneurs brésiliens qui savaient, qui étaient capables de diriger la sélection. Donc, le contexte pour Ancelotti n'est pas forcément à 100% favorable. C'est pour ça que s'engager au-delà de la Coupe du Monde tout de suite, c'est compliqué. Après, ça dépendra des résultats.
Ouais, cela faisait 60 ans que la Seleção n'avait pas été entraînée par un sélectionneur étranger. David, vous avez une dernière question. Nous vous écoutons.
Exact.
Avec Antoine Grenier.
Pourquoi l'avoir nommé pour si peu de temps?
Bah voilà.
Qui pourrait le remplacer à la tête du Real Madrid?
Alors, qui pour remplacer Ancelotti? Bon, c'est un secret de polichinelle.
Oui, ça sera Xabi Alonso. Enfin, il y a 99,9% que ça soit ça. Il a quitté le Bayer Leverkusen qu'il a amené au titre de champion d'Allemagne en huitième de finale de la Ligue des Champions cette année. Il est jeune, il est ambitieux, c'est un ancien joueur du Real. Ça va être une vraie rupture avec l'époque Ancelotti. Époque dorée, hein, parce que Ancelotti, ça reste un des meilleurs techniciens d'Europe. Alonso, il est libre donc à la fin de la saison. Il a négocié son départ. Il va signer dans quelques semaines avec le Real pour relancer cette équipe qui a clairement manqué de moelle, de structure et d'équilibre. Ses premiers choix seront scrutés de très près. Lui qui exigeait énormément de ses joueurs à Leverkusen, quitte à se brouiller avec certains. Donc là, au Real, ça sera un autre contexte.
David, supporter du Real, l'arrivée très possible de Xavi Alonso vous rassure?
Exact, ça me rassure bien. Nous attendons avec beaucoup d'émotion d'ailleurs.
Bon, bah tant mieux. Merci David, bonne journée à N'Djamena au Tchad. À très vite, Antoine Grenier.
À très vite.
Journaliste au service des sports de RFI. 10h17 à Paris, d'autres questions. Bonjour Abdel Razak.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de la Presse et l'Actualité.
Merci à vous de vos encouragements. Vous avez des questions concernant la Syrie?
Bien sûr Juan. J'ai appris sur RFI qu'à la grande surprise, Donald Trump avait décidé d'élever les sanctions américaines contre la Syrie. Juan, en quoi consistaient ces sanctions en contrepartie? Les Américains ont-ils fixé des conditions?
Ah, bonne question que vous posez effectivement. En tout cas, c'est depuis Riyad, en Arabie Saoudite, que le président Trump a annoncé la levée des sanctions. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Professeur en géopolitique à Sciences Po Paris, on vous doit cet ouvrage publié aux éditions Odile Jacob. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons politiques d'espérer. Frédéric Ancel, dans les rues de Damas, cette annonce de Donald Trump a suscité beaucoup d'enthousiasme. On a entendu des manifestations de joie ici et là à travers les rues de la capitale. En quoi consistaient ces sanctions américaines?
Ah ben, un petit peu comme toujours, hein, quand ça vient des États-Unis, c'est-à-dire des sanctions financières, commerciales, techniques, normatives. Je veux dire, très concrètement, c'est ce que les États-Unis savent faire de mieux et de plus puissamment. C'est-à-dire que si vous vouliez emprunter sur les marchés mondiaux, c'était strictement impossible. Alors, pour relever un pays qui est aujourd'hui, dont le PIB est aujourd'hui inférieur à celui des années 70 lorsque Hafez al-Assad arrive au pouvoir, donc le père de Bachar, bah, évidemment, vous ne pouvez pas. Lorsque vous essayez de vendre ou d'acheter quoi que ce soit à des entreprises ou à des États, et que ces entreprises ou ces États sont du coup frappés, boycottés hein, par les États-Unis, par tout ce que compte hein, les institutions et les banques américaines, évidemment vous ne pouvez pas relever votre pays. Voilà. Donc les sanctions, je résume, étaient essentiellement de nature financière.
Ouais, du coup, malgré la chute de Bachar al-Assad, à travers ces sanctions, on comprenait bien que les investisseurs étaient tout de même encore frileux à l'idée de se rendre en Syrie. Frédéric Ancel, je le disais en préambule, sous forme de détail, mais ça a toute son importance. C'est de Riyad, en Arabie Saoudite, que Trump a annoncé la levée des sanctions américaines. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors précisément, c'est la question centrale. Le prisme moyen-oriental de Trump n'est absolument pas Israël, c'est l'Arabie Saoudite. Il faut bien comprendre qu'avant qu'il ne devint homme politique et donc évidemment président, Trump avait déjà beaucoup investi en Arabie Saoudite. Par exemple, strictement rien en Israël. Il faut se souvenir que le tout premier voyage de Trump numéro 1, il y a donc un peu plus de 8 ans de cela, c'est en Arabie Saoudite, ce qui est une première pour un président américain. Il faut encore se souvenir que l'Arabie Saoudite est ce pays qui, depuis 1945, et l'accord du Quincy, achète et aux États-Unis, investit aux États-Unis par centaines de milliards de dollars chaque décennie. Et regardez ce qui s'est passé d'ailleurs il y a 3 jours. Ça étaye ce que je suis en train de vous dire. On est sur un contrat mirifique. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsque les Saoudiens demandent la levée des sanctions sur la Syrie, qui maintenant est dirigée par un pouvoir sunnite, Donc évidemment, c'est ce qui prévaut aussi en Arabie Saoudite. En plus, sunnite ultra conservateur, c'est même le moins qu'on puisse dire. Trump, il dit oui, et il dit d'autant plus oui. Et je conclue d'une phrase que une partie des investissements et de la reconstruction en faveur de la Syrie sera bien sûr d'origine américaine.
Ouais, il a dit oui et il a même ajouté qu'est-ce que je ne ferai pas pour le prince héritier saoudien. Frédéric Ancel, est-ce que les Américains ont fixé des conditions pour lever ces sanctions en Syrie?
Alors là, c'est bien le problème. D'ailleurs, ça renvoie un petit peu à ce qu'a posé très justement comme question votre auditeur. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre quand même à ce que, un petit peu à l'européenne, à ce que les Européens font de temps à autre, c'est-à-dire autoriser ou encourager la fin, ou reconnaître la fin de sanctions, moyennant quoi les droits de l'homme seraient, par exemple, à minima respectés. Je vais vous dire franchement, c'est pas le truc de Trump. Trump n'est pas un idéologue, c'est pas un politique, ça n'intéresse pas. Les droits de l'homme ne l'intéressent pas, les droits des femmes ne l'intéressent pas, la politique et la diplomatie ne l'intéressent pas. Je dépense $1, je veux en récupérer 2. Et je pense que le mercantilisme absolu est réellement le seul nord de la boussole de M. Trump.
L'analyse de Frédéric Ancel sur RFI ce matin, merci. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique à Sciences Po Paris. Abdelrazak, très bonne journée et merci à vous pour vos questions et les explications de Frédéric Ancel sont à réécouter évidemment à tout moment sur notre application RFI Pure Radio. 8h22, on repasse au standard 33 9 693 693 70. Edith Divin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde et bienvenue à Kinshasa.
Ah, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez des questions concernant l'exploitation pétrolière dans votre pays, la RDC?
Justement Juan, les autorités congolaises souhaitent relancer un appel d'offres pour le bloc pétrolier. Je voudrais savoir pourquoi le dernier appel d'offres a échoué. Qu'est-ce qui avait freiné les investisseurs à l'époque?
Oui. Ah, c'est une bonne question. En tout cas, les autorités assurent qu'elles ont tiré toutes les leçons du dernier appel d'offres qui avait fini par être annulé. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. L'appel d'offres de 2022 concernait 27 blocs pétroliers. Rappelez-nous pourquoi il n'avait pas suscité l'intérêt des investisseurs à l'époque.
Alors, le point qui fait...
Ah, on a un petit problème de réseau avec Kinshasa, Pauline Azidi. On va essayer de régler ça, bien évidemment, hors antenne. Est-ce qu'on refait une tentative avec Paulina? Sinon, on rappelle Paulina et on essaie évidemment de la retrouver avant la fin de l'émission. Paulina? Alors, visiblement, on a un petit souci. On va repasser au standard. Edith Divin, on est en direct. Un peu de patience pour les explications. On vous retrouve dans un instant. Avons-nous Brahim?
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Brahim, merci à vous et merci de votre patience. Vous avez des questions concernant la Libye et la flambée de violence à Tripoli dans la capitale?
Oui, effectivement. En Libye, les chefs d'une milice importante a tété dans des affrontements à Tripoli entre groupes armés rivaux. Qu'est-ce qui explique ces violences? Qui revendique ces groupes armés?
Ouais, des violences particulièrement denses. Les habitants de Tripoli n'avaient pas vu une telle flambée de violence depuis maintenant 2 ans. Bonjour, Jalal Archaoui.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, spécialiste de la Libye. Merci de prendre quelques instants ce matin. Ce dirigeant, ce chef de la milice SSA, l'autorité de soutien à la stabilité, a donc été tué en début de semaine lors d'affrontements entre groupes armés. D'abord qu'on comprenne bien, que s'est-il passé lundi soir dans les rues de Tripoli?
Lundi soir n'était pas si violent que ça. Il y a d'abord eu la liquidation de ce chef de groupe armé, mais c'était pas dans le cadre d'une bataille, c'était dans le cadre d'un guet-apens. Donc ce qui a été mené était une opération relativement chirurgicale, et du point de vue des perpétrateurs, c'était fait de manière assez réussie. Les affrontements les plus graves ont commencé 24 heures après, dans un contexte légèrement différent, mardi soir, et ce qui devrait inquiéter vos auditeurs beaucoup plus. Mais pour en revenir à cet individu, Abdelrahim El-Kikli, c'est un chef, donc le chef d'un groupe armé qui existe depuis la Révolution, depuis 2011, et avec cet individu, le Premier ministre actuel avait une relation, disons, de cohabitation. C'est-à-dire qu'ils ne s'aimaient pas, les deux dirigeants ne s'aimaient pas, mais ils se toléraient mutuellement et trouvaient des arrangements tactiques au fur et à mesure des circonstances et des crises changeantes. Et ce modus vivendi, si vous voulez, c'est ce qui caractérise le Tripoli de ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plusieurs îlots, plusieurs factions armées qui n'étaient ni alliées, ni amies, ni particulièrement sympathisantes les unes vis-à-vis des autres, mais qui arrivaient à coexister sans guerre. Et donc le meurtre de lundi met fin, si vous voulez, à ce régime de modus vivendi, puisqu'aujourd'hui, pour avoir ce genre de cohabitation, il faut quand même un minimum de confiance, même si on ne s'aime pas.
Le Premier ministre libyen a salué la mort de Reniwa, donc le surnom de ce dirigeant de la milice, en parlant d'une étape décisive vers l'élimination des groupes irréguliers. Vous parliez en préambule, Jalel Harchaoui, des violences qui ont éclaté après la mort donc de Reniwa. Que se passe-t-il en ce moment dans les rues de la capitale libyenne?
Tout d'abord, ce que le Premier ministre appelle irrégulier, tous les groupes armés, toutes les formations armées en Libye sont irrégulières, sans exception.
Y
Donc, ce qu'il
compris,
appelle irrégulier, c'est qu'il de...
y compris les groupes armés qui le soutiennent?
qu'il ne, il appelle irrégulier les groupes armés qui ne le soutiennent pas. Et donc, ce qu'il a voulu faire mardi, pour répondre à votre question, c'est qu'il a attaqué un autre groupe armé, qui est aussi caractérisé par ce désir de tenir tête un petit peu, de contredire le Premier ministre. Il s'agit de la force de dissuasion, la force spéciale de dissuasion, RADA, qui est concentrée plutôt dans l'est de la capitale et dans la banlieue de Sorgema. Et cette deuxième opération, tout à fait distincte de celle de lundi, je parle de ce qui a commencé mardi soir, n'a pas été couronnée de succès tout de suite. Au contraire, ça reste en suspens. Et aujourd'hui, en plus, il y a des protestations des civils qui ne veulent pas avoir ce genre de violence meurtrière dans le cœur même de la capitale libyenne. Et la réaction de certaines milices consiste à tirer sur la foule. Donc, il y a deux choses. Il y a l'affrontement entre les groupes armés qui, déjà, a tendance à tuer les civils innocents qui sont de passage à ce moment-là. C'est très, très meurtrier. Je voudrais insister là-dessus. Et maintenant, il y a la colère de la population qui fait face à une violence aussi des mêmes groupes armés.
Et on a entendu justement cette colère ce matin sur RFI, le témoignage de plusieurs habitants de Tripoli. Brahim, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, satisfait. Bien, merci, merci, merci.
Je remercie surtout Jalel Harchaoui, géopolitologue, spécialiste de la Libye et chercheur associé au sein du Royal United Services Institute de Londres. Un peu de patience, Edith Divin. Si vous le permettez, on vous reprend demain matin à l'antenne. Est-ce que ce sera possible?
Il n'y a pas de problème.
Bon, voilà, on a fini par rétablir la liaison avec Kinshasa, mais voilà, il nous reste à peine 2 petites minutes pour vous répondre. Et vraiment, votre question sur l'appel d'offres pour les blocs pétroliers en RDC mérite bien plus que 2 minutes, d'autant que le sujet fait réagir sur place en République démocratique du Congo. Notamment, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, les organisations environnementales qui se disent inquiètes tout de même par cet appel d'offres et l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo. Merci à tous. D'autres questions évidemment demain. D'ici là, vous nous appelez. Le standard reste ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle au plus vite, c'est promis. Vous aurez la parole dans 10 minutes pour réagir à cette décision prise par les militaires au Mali, la dissolution des 300 partis politiques. Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Si j'en crois le nombre de réactions aussi bien au standard que sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écrire de Bamako avec, je tiens à le dire, des points de vue pour le moins contrastés. On a par exemple Yaya qui nous a écrit sur WhatsApp et qui nous dit « C'est le début de la dictature au Mali. Après les syndicats et les radios privées qui donnent la parole au peuple, c'est au tour des partis politiques. » Et vous avez Adama, comme d'autres auditeurs, qui au contraire estiment que cette décision était nécessaire. Le multipartisme, nous dit Adama, est devenu une sorte de fonds de commerce pour certains leaders politiques maliens, des partis qui n'ont pas de vision pour développer le pays, mais seulement pour déstabiliser le régime. Et vous, qu'en pensez-vous? Que vous inspire ce tournant radical dans la transition malienne? 33 9 693 693 70, vous aurez la parole juste après la dernière édition d'Afrique Matin. Restez avec nous, dans quelques secondes, il sera 8h30 en temps universel.